Mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, encore une fois, que l'amour, la joie, la paix et la miséricorde du cœur du Père, en le Fils et en l'Esprit Saint, feu d'amour et feu de gloire, soient avec vous maintenant et pour toujours. Et nous en sommes à la deuxième cassette de cette première série sur la mission du Père. Nous avions vu jusqu'ici la première partie au complet et nous étions dans la deuxième partie de l'exposé. Nous avions terminé les chapitres 4 et 5 et nous passons donc maintenant au chapitre 6. La mission du Père est en complète harmonie avec les missions déjà bien connues de Jésus et de l'Esprit-Saint, tous deux envoyés par le Père. C'est une première question qui a son importance. Il faut se demander vraiment comment tout cela s'harmonise. Eh bien, la réponse est oui, c'est sûr et certain. Est-il même nécessaire de le démontrer? Il existe une foule de textes de l'Écriture qui nous rassurent à ce propos, et en plus, les messages même reçus à l'occasion de la nouvelle mission du Père en ces derniers temps nous le disent et redisent très souvent. Voyons-y de plus près. Du côté de l'Écriture sainte, les textes que vous connaissez autant que moi surabondent et ne cessent de nous montrer que tout ce qui se passe entre le Père, le Fils et l'Esprit-Saint se relie et se relaie toujours parfaitement. En voici quelques exemples. Jean 6, 65. « Personne, dit Jésus, ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Alors on ne va vers Jésus que si le Père le veut. Matthieu 11, 27. « Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Donc, en sens inverse, on ne va vers le Père que si Jésus nous y conduit. Jean 5, 19. Le Fils ne peut rien de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Car ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement. Autre texte, Jean 16, 13. Quand viendra l'Esprit, après que Jésus sera remonté au ciel, et je cite, « Il, l'Esprit, ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra, et il vous communiquera tout ce qui doit venir. » Donc, il y a toujours un parfait relais entre les trois personnes de la Sainte Trinité. J'aurais le goût d'ajouter ici un répond qu'on retrouve au bréviaire le troisième mercredi du carême et qui dépeint, on ne peut mieux, ce qui se passe avec la mission nouvelle du Père. Et je cite, « Celui que ton esprit habite, Seigneur, accueille les secrets du Père. Heureux l'homme dont le regard traverse l'invisible pour chercher ton visage. » Fin de la citation. Et c'est à cet univers, invisible mais bien réel, que le Père, dans sa mission, en Jésus et par leur esprit, veulent nous initier toujours davantage. En second lieu, maintenant, écoutons quelques extraits des messages où le Père lui-même parle de sa mission. Et une autre série où Jésus nous dit où il se situe face à cette mission du Père. Et je cite, et c'est l'Esprit qui parle au nom du Père. Et le Père est le véritable animateur de la mission à laquelle, notez bien en passant, il a donné son nom, celui de mission du Père et de mission des derniers temps. pour signifier qu'il n'y en aura pas d'autre de ce genre par le Dieu Trinité, et que la fin des siècles est toujours marquée de l'événement de quelque chose de plus qu'ordinaire. Nous serons en les derniers jours de ce siècle, en forme, notons bien, d'église bien constituée pour une marche en avant dans le pas du premier jour du nouveau siècle, qui apparaîtra en le temps, jour de grâce, de la bénédiction éternelle de Dieu le Père, en le Fils et le Saint-Esprit. Fin de la citation. Un autre extrait d'un message. J'ai fondé mon Église de la mission invisible des choses, divine, surnaturelle, spirituelle, mystique et évangélique, de l'amour, pour toutes les âmes du monde entier, de la terre. Et ce qui se reflète sur toutes les âmes de la terre, c'est le don, le plan de l'amour. C'est ma divine essence divine en grâce d'amour, en don d'amour, en plénitude de l'amour, des dons de l'amour, des feux de l'amour, de ma vie de l'amour pour une grande et fulgurante joie de mon cœur, en les ardeurs de feu de l'amour gloire, d'une gloire infinie, d'une vie de lumière, d'une vie de joie, de mes plénitudes de Dieu le Père en la Trinité amour. Fin de cette citation. Et une autre. Je vous appelle à une vie pleine et véridique du droit en les lois de Dieu pour donner la lumière, les feux de l'amour en l'enseignement et pour une plus profonde ouverture à la grande mission du Père. Par la lumière de l'Esprit-Saint de vérité, en l'Église visible de Jésus-Christ, où j'ai greffé mon Église invisible, sur les bases de l'Église visible de Jésus, le Christ, le Fils unique du Père, le Fils de Dieu le Père, en les feux de l'Esprit-Saint de la Trinité. Et voyons maintenant dans quelques autres extraits d'un message du mois de juillet 86, comment Jésus, lui, se situe face à cette mission du Père. Et je cite, « Amour du projet de Dieu, formulé pour une mission particulière, mission qui cadre avec celle que j'ai établie dans la marche messianique. » Mission qui reconstitue l'amour dans toute son ardeur trinitaire. Action de feu, action du célébrateur, le pontife du Père glorifié à jamais, pour projeter une nouvelle flambée de feu à travers la mission distincte des nouveaux disciples en la mission royale de Dieu, votre Père, notre Père. Je suis parmi vous le fils de la complaisance, le premier-né de votre Père, délibérant avec lui de ses décrets, de ses projets nouveaux, de la mission exclusive, mandat royal, spirituel, pour agir dans l'unité, action de Dieu, identité de l'insigne, de l'exclusive gloire et transcendant recours divin, pour les fils de la promesse de ces derniers temps. Autre extrait, dans la mission du Père, j'exerce une médiation doublement active, par droit divin, par complémentarité apostolique, et par justification de salut à la plus insigne miséricorde. Inséré par mandat de la plus éclatante activité, en prise souveraine, puissance énergétique sur l'univers des hommes, qui ont les bras tendus vers l'espérance de leur Dieu créateur. Le Père et moi vous associons à la récupération de tous ceux qui agonisent et tremblent dans leurs péchés. Autre extrait et dernière dernière citation de ce message, l'œuvre ecclésiale de ces derniers temps est l'immersion spirituelle de Dieu le Père pour son Église. Associés à cette œuvre, les bénéficiaires chantent le poème de l'amour, le Gloria de l'amour et le Sanctus de la gloire. Aux petits, Dieu donne une voix aiguisée, mélodieuse et puissante pour contrebalancer le mal, la tristesse, les désordres qui se vivent sur la terre des hommes. Ce qui fait la valeur des petits, c'est la richesse du mandat qui leur a été investi. Croyez en la mission du Père. Fin de la citation. Alors, pour conclure ce chapitre, il est donc bel et bien évident, on ne saurait en douter, que même si le Père n'est pas l'envoyé de Jésus ou de l'Esprit, et que sa mission est bel et bien de sa propre initiative, on peut quand même affirmer que le Père a mis son Fils bien-aimé et leur Esprit dans le coup. Une telle initiative, n'en doutons pas, s'est mûrie en plein cœur trinitaire, on peut bien en être assuré. Passons maintenant, si vous le voulez bien, au chapitre 7. Et voyons ensemble quelques-uns des immenses bienfaits déjà perçus et appréciés par tous ceux et celles qui, se sentant personnellement appelés, disent oui au Père et se mettent à sa disponibilité. À la vérité, on peut distinguer trois séries de bienfaits. D'abord, ceux qui concernent les personnes qui s'y engagent. Ensuite, les bienfaits dont profitent ceux et celles sur qui et pour qui s'exercent les ministères invisibles. Et enfin, les grands bienfaits de la mission en tant que telle. C'est surtout à ces derniers que je compte m'arrêter dans ce chapitre, mais rapidement un mot des deux premiers, concernant d'abord les bienfaits qu'éprouvent ceux qui et celles qui s'y engagent. J'ai vraiment encore à rencontrer une seule personne qui a été appelée à cette mission, qui s'y est engagée à fond, qui en vit sérieusement, qui n'est pas enchantée, comblée et ravie. Les deux notes dominantes de leur témoignage, à peu près identiques chez tous, « Enfin, je me sens aimé de Dieu, et en particulier du Père, et je me sens enfin utile en Église. » Quant aux bénéficiaires sur qui s'exercent ces ministères invisibles, on découvre à quel point ils en sont comblés par trois sources distinctes et complémentaires. La première source, ce sont d'abord les messages même du Père, qui très fréquemment nous confie et nous décrit lui-même ce qui s'opère ou s'est accompli dans le monde grâce aux prières et au ministère invisible de ses disciples de la mission du Père. Deuxième source d'information, cela vient par le fait qu'on voit apparaître de plus en plus des conversions soudaines, des reconsécrations inattendues, des revirements subis de situations qu'on croyait compromises à jamais, des règlements d'impasse d'une manière tellement rapide que souvent même les personnes concernées ne peuvent se l'expliquer. Et qu'on ne peut rattacher à des prières ou à des ministères voulus, connus, visibles, sous les yeux des intéressés eux-mêmes. Ça vient d'où alors? Qui a prié pour ces conversions, ces revirements de situation? troisième source, enfin, ce sont les témoignages des bénéficiaires eux-mêmes qui ont parfois la grâce de percevoir que c'est vraiment une œuvre de la mission du Père, que c'est vraiment quelqu'un qui, dans l'invisible, est venu leur imposer les mains, demander leur guérison ou libération. Ils en ont souvent l'étonnante confirmation intérieure, parfois même très forte, et ne peuvent alors s'empêcher de partager ce vécu exceptionnel à la première occasion. Mais arrivons-en au grand bienfait, surtout de la mission en tant que telle. Le premier grand bienfait de la mission du Père, c'est la découverte ou redécouverte par le peuple de Dieu de sa ligne de départ et de sa ligne d'arrivée, à savoir de baigner dans l'amour et la miséricorde de Dieu qui nous a créés, sauvés et veut nous combler pour l'éternité. C'est par cette puissance d'amour que le Père entend oxygéner ou pratiquer une oxygénothérapie du monde et de l'Église pour les renouveler, les ressusciter en quelque sorte. Nous sommes nés, nous le savons, je l'ai souvent dit dans des enseignements, avec un besoin absolu d'amour absolu. Et nous cherchons depuis notre naissance, et souvent en vain, à combler cette quête d'amour. Et le monde, hélas, ne nous en donne pas la réponse vraie et satisfaisante. Mais cette fois-ci, on sent que ça y est. On y goûte, et ce sera sans fin et de plus en plus. Quelle découverte à faire! En second lieu, un autre bienfait, la mission voit au rétablissement et à la revalorisation de la relation vitale et indispensable père-enfant. Donc du sens paternel et maternel, car Dieu est à la fois père et mère, et du sens filial. On redécouvre leur complémentarité et encouragement mutuel. Et ainsi, la mission du Père devient très précieuse, surtout pour ceux et celles qui ont été privés, déçus ou blessés parfois, dans leur relation avec leurs parents de la terre. Troisième grand bienfait, c'est la relance éclairée, motivée, animée et sans précédent des ministères invisibles en Église, du vrai sens de la communion des saints et de la beauté et de la vie du corps mystique du Christ. En quatrième lieu, on se rend compte que la mission du Père met en valeur un rôle non seulement important, mais prépondérant même pour la femme en Église. C'est une des grandes richesses de la mission du Père. Et c'est à ce point important que j'y reviendrai beaucoup plus longuement dans la troisième série de cassettes. Cinquième bienfait, c'est l'entrée perceptible, irréversible, dans le nouveau renouveau continu d'ordre mystique et communautaire, tant souhaité et attendu par une multitude d'âmes, et que toutes les autres formes de renouveau en Église préparaient sans trop le savoir depuis 50 ans, le renouveau biblique, le renouveau liturgique, catéchétique, charismatique, œcuménique, préparaient sans le savoir ce renouveau d'ordre mystique, une plus grande union avec Dieu, et communautaire avec nos frères et sœurs. Donc, en définitive, nous préparer à vivre ici-bas ce style de vie que nous allons vivre dans l'Église du ciel, l'Église triomphante. Le seul renouveau véritable qui, à mon humble avis, a manqué le train au cours de ce siècle, c'est le renouveau théologique, quant à son souffle vraiment spirituel nouveau. La mission du Père, axée sur l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit pour nous, avec retour envers eux et partage entre nous, ouvre une autoroute directe, rapide, à l'épanouissement en Église de la vie mystique et de la vie communautaire vraie. Sixième grand bienfait, la fin pour de bon, alléluia, du style 1 en l'Église. Ce sera son coup de grâce qui l'achève. Et l'avènement rapide, par ailleurs, veut pas, du style 2 nouveau. Ce sera son coup de grâce qui le consacre, lui. Mes amis, on va assister prochainement, c'est déjà en cours d'ailleurs, à une prolifération d'au revoir et merci dans tous les secteurs de la vie de l'Église. Prenez-en ma parole. Il va y avoir, il y a déjà même, des communautés chrétiennes, paroissiales, diocésaines ou religieuses, ou des membres de mouvements dits de renouveau spirituel, qui de plus en plus déçus de leurs pasteurs, de leurs supérieurs, locaux ou majeurs, ou de leurs bergers, vont oser, dans une démarche courageuse, bien discernée et à la fois charitable et franche, vont oser aller officiellement remercier de leur service leur curé, vicaire, évêque, supérieur ou dirigeant. Le palmarès est impressionnant de tous ceux et celles qui vont se mériter prochainement un au revoir et merci de la part des fidèles, qui vont adhérer massivement au style 2 nouveau de l'Église. Vous connaissez cette cassette, la quatrième interpellation aux évêques, où j'ai parlé de cet au revoir et merci à un type actuel d'évêque. C'est la même chose pour un certain type de prêtres, devenus plutôt des travailleurs et des animateurs sociaux, des conseillers psychologiques, des administrateurs et des hommes d'affaires, des enragés du temporel et dégagés du spirituel, des busybodies. Ça va être la même chose, un au revoir et merci pathétique à l'intention de communautés religieuses qui se sont disloquées et affaiblis peu à peu par le mangeons-nous, qui se sont redéfinis plutôt à leur image et ressemblance qu'à celle du Seigneur, sont passés d'une consécration à quelqu'un, le Seigneur, à une consécration à quelque chose, les œuvres de leur choix. Il y aura un au revoir et merci généreux également à cette foule de théologiens qui ont eu le don de compliquer, d'embrouiller parfois, de faire douter souvent. La même chose à un certain type actuel d'exégètes, de spécialistes de la Bible, qui ont réussi à brouiller et à faire douter de plus en plus des textes et des récits clés de la Bible. À un certain type actuel de docteurs de la loi, qui encore aujourd'hui sont rivés à l'amour de la loi plutôt qu'à la loi de l'amour. À un certain type actuel de dirigeants charismatiques qui n'ont pas su protéger et encourager au sein du renouveau toute la liberté et la spontanéité de l'esprit, qui ont fini par céder aux pressions et laisser ce renouveau si précieux et riche et indispensable s'enfermer sur lui-même, se mettre en conserve, s'institutionnaliser à outrance, adopter le plus pur style 1, le culte de la personnalité, et céder de plus en plus à un esprit de pouvoir sur le membership. Enfin et enfin, ce sera un au revoir et merci irréversible à tout ce type encore actuel de fidèles qui se laissent porter, bercer même en l'Église, et n'acquièrent pratiquement jamais leur maturité et leur liberté spirituelle, prérequises pourtant, absolument, à la prise de responsabilité et à l'épanouissement de la créativité en l'Église nouvelle qui s'en vient. Et vous imaginez que je pourrais prolonger cet aspect de ce grand bienfait que je salue au passage. Septième bienfait de la mission du Père. Ce sera le dernier que je soulignerai pour ne pas prolonger indûment cette énumération. La mission du Père, mes frères et mes sœurs, va en finir une fois pour toutes avec l'une des ruses, des fourberies les plus raffinées du malin, à savoir ce brouillard de plus en plus étouffant, ce smog dangereux qui enveloppe de plus en plus tous nos milieux et du monde et de l'Église, et qui s'appelle la tolérance inconditionnelle, la tolérance pour la tolérance, qui nivelle sans distinction et sans évaluation tout et tous, le bien et le mal, les gens justes et les mécréants, au nom soi-disant non seulement du respect des autres et de la liberté, mais avec la collaboration tacite et regrettable, tacite et parfois explicite, de l'Église, qui s'est rendue souvent complice en pensée, en parole et en acte de cette tolérance inconsidérée, on y a ajouté les motifs tels que la charité fraternelle, l'écuménisme, le pluralisme, etc. Atmosphère empoisonnée et enténébrée, où prolifèrent et se propagent à leur guise les virus et les microbes qui détruisent toute norme, toute échelle de valeur et nous conduisent au désarroi croissant actuel. Avec l'arrivée toute prochaine de Jésus parmi nous, au cœur même de cette mission du Père, nous aurons au moins trois bonnes raisons de nous tirer rapidement de cette impasse et de nous sortir de cette confusion des confusions. Premier motif, Jésus et leur esprit s'en vient faire à nouveau la grande lumière, en direct, dans tous les cœurs et les esprits. Ça va donc dépasser, surpasser d'emblée tous nos efforts humains possibles. Secundo, chacun et chacune va avoir à se brancher clairement et une fois pour toutes. Dire oui au bien et à Jésus et dire non au mal et aux menteurs, ou en subir les conséquences. Tertio, face à ceux et celles qui vont hésiter, s'obstiner ou rejeter malgré tout, nous aurons le moyen de les porter dans la prière par le truchement des ministères invisibles d'une puissance très grande, à distance et même en leur absence, sans avoir, sous prétexte de tolérance, de compréhension mondaine, à demeurer dans l'actuel smog étouffant pour tous. Et passons maintenant au chapitre 8. Trois mini-objections qui ne manqueront pas de surgir et quelques petits éléments pour y répondre. Quand je dis mini-objections, je n'ai pas la naïveté de croire que tous vont être d'accord avec moi. Je n'ai même pas le droit de parier, puisque je suis déjà sûr de sûr que plusieurs vont tenter d'en faire des maxi-objections. Tout un drame, voire même leur cheval de bataille, pour tenter, encore une fois, et je dis bien tenter, d'attaquer ces messages du Père et cette proclamation de la mission, et tenter de nier l'authenticité même d'une telle mission. Je vous ai déjà parlé, en boutade, de l'archiconfrérie de la Sainte-Loupe. Nul doute que l'initiative que je prends aujourd'hui va alerter cette auguste archiconfrérie. Tout leur laboratoire de dissection, pour ne pas dire d'autopsie, va se mettre sur pied de guerre. Et tout leur attirail optique, à partir de la loupe, du microscope, des lunettes d'approche, va se mettre à l'œuvre. Et avec le même amour et humour, je pourrais dire aussi que on peut imaginer également les nombreux vautours intellectuels à la pige qui vont se darder à toute allure sur ce festin spirituel extraordinaire qu'est la mission du Père pour tenter de déchiqueter, mettre en pièces, telle une proie de prix, toute cette révélation spirituelle hors prix de la mission du Père. Je dis d'avance à ces braves frères et sœurs, bonne chance, mes amis. Vous pourrez sembler gagner quelques premières manches auprès de ceux et celles qui vous écoutent et vous suivent aveuglément, pour le moment du moins, ou ne sont pas renseignés sur le sujet. Mais je vous le dis fraternellement, clairement, et avec la plus grande assurance, vous ne gagnerez jamais la partie, car le Père l'a en main solidement, et le peuple de Dieu l'a de plus en plus dans le cœur et sous les yeux. À la vérité, pour moi et une multitude croissante en Église, ce qui était surtout important en tout premier lieu de vérifier sérieusement et de bien discerner spirituellement, c'était l'authenticité du message et de la messagère. Cela, une fois bien établi, la parole du Père me et nous suffit. Peu importe si elle entre ou pas dans nos catégories intellectuelles actuelles. Jamais on ne doit refuser un colis de grande valeur tout simplement parce que son casier postal ou sa boîte aux lettres est trop petite ou qu'on est pris par surprise. À la rigueur, j'aurais donc pu éviter de mentionner ces trois objections. Si je l'ai fait, c'est par délicatesse pour vous qui croyez et vous sentez déjà appelé à cette mission du Père, afin que ces propos éventuels que vous allez entendre inévitablement, croyez-moi, et qu'on va vous servir et resservir à chaud et à froid, ne troublent en aucune manière votre paix, votre engagement et votre espérance. Prenons-les donc, ces trois mini-objections, l'une à la suite de l'autre, au pas de course, car il y a tant d'autres points plus importants. La première objection qu'on va formuler, c'est la non-mention préalable de cette mission dite du Père dans l'Écriture sainte. On dit souvent, et avec raison, que tout a été révélé en Jésus. C'est vrai, mais tout n'a pas été pour autant explicité, expliqué, nommé. Quand Jésus lui-même dit « J'aurai encore bien des choses à vous révéler, mais vous ne pourriez pas les accueillir et les porter maintenant », Jean 16, 12, il ne faut pas un doctorat en théologie pour saisir qu'il nous faudra découvrir éventuellement, seulement, encore bien des choses. Lesquelles au juste? Et combien? Dieu seul le savait quand Jésus a prononcé cette phrase, et Dieu seul le sait. La même chose avec son affirmation et sa double affirmation quand il dit « L'Esprit de vérité vous conduira à la vérité tout entière. » Jean 16, 13. Ça veut dire en anglais « more to come ». C'est à suivre, dirions-nous. Jean 16, 13b. L'Esprit vous communiquera, vous fera connaître, selon la traduction de Tob, ou vous dévoilera, selon la traduction de la Bible de Jérusalem, les choses à venir. Ici encore, il y a une place très large à des trouvailles exceptionnelles, à des découvertes et nouvelles sensationnelles, donc inconnues, insoupçonnées, inimaginables même. Je souligne ici, entre parenthèses et en passant, c'est ici que ceux et celles qui ont enlevé de leur RCA, récepteur cœur-amour, la longueur d'onde du merveilleux et de l'extraordinaire, se rendent eux-mêmes et elles-mêmes victimes, courent après leur propre malheur, en devenant, en quelque sorte, inaptes à capter, voir, entendre et comprendre tout ce qui se passe de merveilleux et d'extraordinaire présentement dans les âmes, dans le monde et l'Église. On peut donc à la rigueur croire que la mission du Père était déjà incluse, sous-entendue dans ces textes qui clairement laissent entendre que de grandes choses sont à venir. Je pourrais mentionner ici que l'Écriture sainte ne nous parle pas non plus des apparitions et des messages de la Vierge, pas plus que de son Assomption. Et pourtant, Pie XII a proclamé l'Assomption de Marie, dogme de foi, en 1950. Dogme qui dit qu'elle fut élevée, corps et âme, à la gloire du ciel. Donc, Dieu seul sait pourquoi la mention comme telle de mission du Père ne figure pas déjà en toute lettre, noir sur blanc, dans nos textes de Bible. D'ailleurs, on peut se demander, avec raison, y aurait-il eu avantage réel à annoncer 20 siècles à l'avance sa grande œuvre des derniers temps? Dans le cas des missions de Jésus et de l'Esprit, c'était différent. Celle de Jésus devait être annoncée d'avance pour éclairer la marche du peuple de Dieu et être précisée lors de sa présence sur terre. Celle de l'Esprit, invisible, elle entrait en vigueur au tout début de l'Église et devait devenir notre relais, pour ainsi dire, avec le Père et Jésus dans la gloire. Il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra de Jésus et du Père. Le Père, lui, avait tout droit de nous réserver cette grande nouvelle et surprise pour plus tard. C'est d'ailleurs implicite dans ce fameux verset Matthieu 24, 36 qui dit ceci. Mais ce jour et cette heure, nul ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne sinon le Père et lui seul. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le Père a toute autorité et tout en main pour, à sa guise, à son rythme, à sa manière, à sa mesure, pour décider, programmer, faire des confidences aux besoins, faire lancer comme il l'entend ce cri qui retentit dans la nuit pour prévenir, etc., en tout ce qui a trait au grand avènement de Jésus, ce deuxième Big Bang spirituel de tous les temps, et tous les autres événements des derniers temps, et la mission du Père qui les concerne. Passons à la deuxième mini-objection. l'expression mission divine en notre théologie actuelle présuppose toujours un envoi. Je ne vous cache pas que la toute première fois que j'ai entendu l'expression mission du Père, j'ai été moi-même fortement étonné. Et durant quelques instants, je suis devenu même perplexe. Pourquoi? Parce que toutes mes notions théologiques, fruits d'une bonne formation sulpicienne, ont refait surface soudainement. En effet, dans l'enseignement théologique classique, on nous dit qu'une mission divine comporte toujours comme élément important l'envoi d'une personne divine par une autre personne divine, chaque personne procédant éternellement d'une autre, sauf le Père. Et de là, on a conclu trois choses en théologie, à savoir, premièrement, que seuls ont pu être envoyés le Fils et l'Esprit, que personne ne peut envoyer le Père. Deuxièmement, que le Père et le Fils sont les seuls à pouvoir envoyer une autre personne divine, l'Esprit ne le peut pas. Enfin, écoutez bien, qu'aucune personne ne peut s'envoyer elle-même. Donc, interprété au sens strict, très strict, cela veut dire que le Père, ne pouvant être envoyé ni par Jésus ni par l'Esprit, et ne pouvant s'envoyer lui-même, ne peut donc assumer de mission divine. Car mission et envoi au niveau des personnes divines, selon cette thèse de théologie classique, sont inséparables. Je laisse à nos hommes de science, nos experts, de jongler avec cette difficulté. Mais dès que j'ai pu vérifier hors de tout doute, et d'autres à part moi ont fait également les sérieux discernements spirituels requis, que, d'une part, ces messages révélés sont vraiment authentiques et d'origine divine, que la personne choisie est vraiment instrument de Dieu, et d'autre part, que nous avons pu vérifier que ce titre, mission du Père, était bel et bien choisi par le Père lui-même, qu'il tenait même à cette expression et ne se gênait pas pour l'utiliser, j'ai immédiatement fait une génuflexion intérieure devant le Père. Et on me fait signe que le temps est écoulé. Nous poursuivrons dans un moment.